Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Il va être question d'Écosse aujourd'hui dans Popopop. Ah, l'Écosse. J'en garde un souvenir impérissable. J'étais jeune, j'étais fou. J'étais fou en particulier de Robert Louis Stevenson et je m'étais offert quelques jours de vacances à Édimbourg pour aller y visiter sa maison natale et toute la vieille ville qui a tant inspiré les paysages nocturnes de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il se trouve que l'Écosse a beau être un pays d'une sublime beauté, berceau d'hommes aussi remarquables que Sean Connery, Robert Carlyle, Conan Doyle ou Annie Lennox, même si cette dernière, pour être remarquable, n'est pas à proprement parler un homme, sans oublier bien sûr notre invité Irvine Welsh, qui contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, n'est ni gallois ni rarebit, mais écossais, il se trouve, disais-je donc, avant de m'interrompre moi-même, que l'Écosse a beau donc être un pays d'une sublime beauté avec ses highlands couvertes de bruyères, ses lochs et ses monstres, ses châteaux hantés, ses distilleries enivrantes, etc., etc., sa gastronomie laisse lourdement à désirer. C'est là-bas qu'on se nourrit de haggis, un plat à base de panse de brebis farcie, elle-même farcie d'abat. J'y ai goûté. C'est très spécial. Ça peut même vous dissuader de remettre les pieds en Écosse, à se demander si les Écossais n'ont pas inventé la recette uniquement dans ce but-là. D'ailleurs, c'est bien simple. Irvine Welsh, notre invité, a tout simplement décidé d'aller s'installer aux États-Unis.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Bonjour Irvine Welsh. Bien sûr, ce n'est pas à cause du haggis que vous avez émigré, j'imagine.
Le haggis, moi, en fait, c'est ce qui me manque le plus. J'essaie d'en importer, mais celui qu'on trouve aux États-Unis, vraiment, il n'est pas vraiment aussi bon, parce que le ministre, les gens qui font les importations font qu'on ne peut pas en importer. Alors, on peut acheter un flingue aux États-Unis, mais on ne peut pas acheter de haggis. Là où j'habite, à Leith, s'appelle Los Cardos, c'est un restaurant mexicain. Et ils font le burrito au haggis. Et comme c'est extrêmement épicé, ça marche très très bien avec toute la nourriture indienne. Et quand je retourne en Amérique, ben vraiment, je ne peux pas manger des burritos en Amérique parce qu'ils n'ont pas ce goût très très piquant et très très relevé. Et donc, même le poisson, c'est pas si bon que ça. Donc j'ai besoin de retourner vraiment chez moi en Écosse pour manger du haggis.
Irvine Welsh, vous l'avez compris, nous allons parler burrito. Non, pardon, haggis. Cette émission, non. Merci beaucoup d'être venu dans ce studio malgré quelques difficultés de circulation. D'ailleurs, est-ce que c'est pas un peu ironique de se dire que l'auteur de Trainspotting a dû prendre le bus pour nous rejoindre?
Et oui, parce que moi, j'ai pas mon permis. Alors, si vous me demandez de me rendre quelque part, il faut que je prenne les transports en commun et ça prend du temps. J'ai appris ça il y a 2-3 ans aux États-Unis. J'avais un professeur qui me faisait passer le permis, qui était colombien, et il a complètement abandonné parce que j'étais incapable. Il a dit que vraiment, je conduisais beaucoup, beaucoup trop vite. Et j'ai failli écraser 2 ou 3 personnes qui traversaient la route. Donc, peut-être que c'est mieux que je ne conduise pas, en fait, c'est mieux. J'ai passé mon permis, en fait. Mais ils m'ont bien donné un permis pour porter un flingue, et ils vont bien finir par me donner un permis de conduire.
En même temps, si vous prenez un moniteur d'auto-école colombien, je ne réponds pas des dommages collatéraux. Bien, à mes côtés, Charline Roux. Bonjour Charline. Comment êtes-vous venue aujourd'hui, vous ?
Je suis venue à pied et j'ai croisé une voiture qui, je pense, était conduite par Irvine Welsh. C'était très dangereux, j'ai couru très vite.
Eh bien voilà, ça commence très bien. Voilà pour le menu. Je laisse à une autre artiste écossaise le soin de lancer l'émission.
Bonjour, c'est Charline Spiteri, une chanteuse de Texas. Et pop, 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 c'est parti.
Eh oui, pop, 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 c'est parti. Irvine Welsh, ici, il existe une question qui l'emporte sur toutes les autres, une question qui fait encore plus mal à la tête qu'une soirée arrosée dans un pub écossais. Et cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture ?
Je crois qu'aujourd'hui, la pop culture, c'est une culture médiatique, en fait. La culture populaire, dans laquelle moi j'ai grandi, était nourrie par quelque chose qui rassemblait les gens, qui avait un flux entre les gens, quelque chose qui les rassemblait. Et puis, c'est quelque chose qui est devenu plus mainstream. aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très visible, c'est par l'Internet, par toute la culture qui est aujourd'hui globalisée. Donc, c'est pas quelque chose qui est étranger, qui est étrange. La culture populaire aujourd'hui, c'est la culture des médias. Et c'est une culture télévisuelle, basée sur les écrans. Quelque part, c'est une non-culture. C'est une culture de la réalité, de la télé-réalité, la culture de Donald Trump. Les pays étaient auparavant très démocratiques. Et aujourd'hui, tout est dirigé par le haut. La hiérarchie vraiment se vérifie partout.
Bien, Irvine Welsh, on va parler avec vous pendant une heure, pendant cette pop-heure, mais on commence par écouter la nouvelle sensation du rock anglais, ça s'appelle Shame, et le morceau c'est One Rizla. One Rizla, c'est signé du groupe anglais Shame. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon pop. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Irvine Welsh. Ça vous a plu, Shame?
Yeah, very good.
Ah, oui, très bien. J'avais jamais entendu.
Pas mal, hein. Jeune groupe londonien.
Ils sont très très jeunes, ouais.
Mais oui. Mais qui est donc cet invité mystérieux et spécial avec qui je parle en ce moment? Eh bien, réponse avec votre pop portrait, Irvine Welsh. Alors, votre pop portrait, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline Rourourou.
Aujourd'hui, nous recevons le Balzac des déclassés écossais. C'est écrit sur la quatrième de couve de son dernier roman et j'adore cette idée. Mais alors attention, hein, un Balzac encore plus déglingot.
Sex and drugs and rock and roll.
Enfin, pour être très précise, surtout les drogues, hein, en l'occurrence, souvent présentes et en grande quantité dans l'œuvre de notre invité Irvine Welsh, mythique auteur de Trainspotting, de Porno, de Skag Boys, trois ouvrages autour d'une même bande d'héroïnomanes déglingots from Édimbourg. Et comme il n'y a pas que la daube dans la vie, il y a la baston aussi. Donc on trouve dans sa bibliographie Glou, il y a aussi de la colère dans l'ensemble de son œuvre. Les intrigues de notre invité servent à raconter un certain monde et à dénoncer. Il l'a lui-même expliqué, deux points, ouvrez les guillemets, les journalistes et les politiques extraient des mensonges de la vérité. Les romanciers doivent faire l'inverse, fin de citation. Voyons donc aujourd'hui quelle vérité il y a à tirer des mensonges de son héros un peu anti, Francis Franco Begbie.
Balzac déglingot. Ça vous convient, ça, Irvine Welsh?
Yes. Anything with fucked up in it.
Tout ce qui est déglingot, ça me plaît.
Et ce fameux Balzac déglingot, qu'est-ce qu'il lit? Qu'est-ce qu'il écoute? Qu'est-ce qu'il regarde? C'est le moment de passer à sa pop liste. Nous vous avons demandé, Irvine Welsh, de choisir un livre, un film, une musique, une série. Alors d'abord un film, c'est The Acid House de Paul McGuigan, sorti en 2000, soit trois histoires bien tordues, nées d'un cerveau qui ne l'est pas moins, puisque, cher Irvine Welsh, c'est l'adaptation par vous-même du scénario de vos nouvelles The Acid House. Alors trois segments. Le premier est l'histoire d'un footballeur qui se fait virer de son club et quitté par sa compagne, mais qui rencontre Dieu dans un pub. Le second s'attache à raconter l'histoire d'un homme trop doux. Et le troisième, c'est l'histoire de Coco, qui après avoir été frappé par la foudre lors d'un trip aux acides, se retrouve dans le corps d'un nouveau-né. Acid House, vous avez dit ? Ambiance sonore tirée de la bande-annonce quasi muette. La question, Hervé Welsh, c'est bien sûr, pourquoi vous êtes-vous choisi?
En fait, c'est pour faire ma propre publicité, c'est tout, c'est sans honte. Mais ce qui se passe, sans vouloir être prétentieux, c'est que on écrit les bouquins que l'on a envie de lire et on s'implique dans des films, quelque part, qu'on voudrait voir. On a travaillé aussi sur un spectacle une fois, et c'est ce qu'on veut voir au théâtre qu'on essayait de trouver. On essaie de trouver, en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, on essaie de faire que quelque chose se retrouve sur la page, quelque chose qui n'existe pas auparavant, quelque chose que l'on voudrait découvrir soi-même, et ou en lisant un roman soi-même, c'est ce qu'on essaie de faire.
Très bien. Je passe au livre. Le livre, il s'agit de Marabout Stock Nightmares, publié en 95, un livre signé Irvine Welsh. Alors, ça fait deux autocitations dans cette pop liste. Attention, ça commence à faire beaucoup. C'est l'histoire de Roy Strong, engagé dans une quête étrange dans une Afrique du Sud surréaliste. Un livre malheureusement non traduit dans notre beau pays, qu'à cela ne tienne. Avant de nous expliquer pourquoi vous aimez tant votre livre et en guise de pénitence, Irvine Welsh, voici le début de ce roman. Consentiriez-vous à nous en lire quelques lignes traduites en français?
I'll have a go.
Mais mon français est vraiment horrible.
C'est toi, Just Jameson, et moi. Lui et moi, c'est toi. Pour ce voyage, ce trip de dingue à fond la cassée à travers ces territoires étranges à bord de ce véhicule étrange.
C'est en tout cas ce qu'on mettra dans l'audiobook français.
Fabulous.
Non, et vous parlez couramment le coréen, on vient de se rendre compte.
Vous avez compris que c'était... J'essayais de parler coréen, oui, c'est vrai.
Je le refais en français. C'était juste Jameson et moi, lui et moi, c'est tout. Pour ce voyage, ce trip de dingue à fond la caisse à travers ce territoire étrange à bord de ce véhicule étrange. Mais il n'y avait que Sandy, Jameson et moi. Mais Ils essayaient de me stimuler comme ils l'ont toujours fait. Ils voulaient réveiller le chat qui dort. Ils veulent toujours s'en mêler. Quand les salauds commencent leur manège, ça rend les choses complètement floues et il faut que j'essaie d'aller plus au fond. Pourquoi est-ce que c'est votre livre culte, Irvin Welsh?
J'ai écrit Trainspotting
et The Acid House assez rapidement et je ne savais pas dans quoi me lancer après.
And I got a bit egotistical and full of
et puis,
myself,
je suis quelqu'un d'assez prétentieux et d'égocentrique. Et j'ai tenté de faire un roman expérimental. J'ai fait une photocopie de ma note de gaz 100 fois. Et j'ai écrit à l'intérieur, au milieu, j'y ai entreposé de mauvais poèmes que j'avais composés. Et j'ai envoyé ça à la maison d'édition pour voir. Et j'ai rien eu comme retour pendant un long moment. Mais au bout d'un moment, ils m'ont dit, c'est pas tellement le pire, c'est pas seulement le pire roman que tu as écrit, c'est le pire bouquin que j'ai jamais lu. C'était vraiment un truc impossible à écrire. J'ai l'impression que ça a été écrit, ce bouquin, par quelqu'un qui a un problème mental. Donc mon éditeur m'a dit, allez, va-t'en, prends le large et écris le bouquin que tu as vraiment envie de lire. Est-ce que j'avais vraiment envie d'écrire?
I went away and I blasted out Marabou's Salt Nightmares almost in a month, the rough draft of it.
J'ai écrit une première version en à peu près un mois.
It's not one of my most widely read books or widely translated.
Et c'est pas vraiment le livre qui a eu le plus de succès, celui qui a eu le plus de traductions. Mais tous ceux qui ont lu tous mes livres disent que c'est leur préféré, et de loin.
Il reste plus qu'à le traduire, en français, hein, Marabou's Salt Nightmares. J'espère que votre éditeur nous écoute. Une série. Alors là, il s'agit de The Wire, une série HBO créée en 2002 par David Simon, diffusée en France sur Canal Jimmy à partir de 2004. 5 saisons tendues, filmées de manière quasi-documentaire au cœur de la criminalité de Baltimore. Piqûre de rappel qui vous rappellera ou vous fera découvrir l'ambiance de la première saison.
Avon Barksdale, Stringer Bell. Barksdale has 5 out of 7 towers on the terrace. That's 10 stairwells and 5 high-rises going 24/7 for dope and coke.
Bye, bus.
I want to get in and out as quickly as possible.
These guys are good. They're deep. They're organized. They got everyone on the terraces running scared.
What do you suggest?
Surveillance teams. DNRs, asset investigation. Keep gathering string till we can find a way in.
Violence, criminalité, virtuosité, exploration, sociopolitique. C'est marrant, mais ça nous rappelle l'univers de quelqu'un.
C'est quelque chose. J'ai trouvé que le scénario était épatant. J'ai l'impression que c'était vraiment le modèle vraiment pour une série télévisée dans la forme un peu longue qu'on peut trouver à la télévision. C'était la perfection. Et puis quelque part, c'est un peu la fin du roman finalement. C'est vraiment une forme tellement dirigée dans le sens des personnages, basée sur les personnages, que quelqu'un puisse développer des personnages à ce point-là à la télévision sans compromis et d'une façon qui avant n'appartenait qu'au roman et quelque chose d'incroyable pour la télévision et aussi incroyable en termes de narration tout simplement.
Très bien, alors j'ai du film, j'ai du livre, j'ai de la série, me manque une chanson et cette chanson c'est Summer Wind de Frank Sinatra, sortie en 65 et présente sur l'album Strangers in the Night.
The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me.
Chanson allemande à sa création sous le titre Sommerwind, tout de suite moins chantant, puis reprise par Frank Sinatra. Pourquoi a-t-elle vos faveurs, Irvin Welsh?
It's one of my favorite kind
c'est
of sort
une de mes chansons préférées.
Meandering kind of sort of romantic kind of Sinatra songs.
C'est cette vieille chanson de Sinatra. Comme Songs for Distinguished Lovers aussi. Un album d'une époque où tout était simple, tout était quelque chose de cool. Il faisait des reprises de ballades comme ça et qui évoquaient beaucoup de choses. Sa voix était tellement parfaite, tout roulait. Et il semblait avoir tellement de plaisir à chanter ce qu'il chantait. C'était pas quelque chose pour réfléchir, quelque chose vraiment plein d'émotions, quelque chose de cool. C'est vraiment ma préférée de Sinatra. Et puis, ce qui est génial de Sinatra, c'est que il transforme un matériau très 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 banal en quelque chose de, il le transcende en quelque chose de cool, et c'est que lui qui sait faire ça.
Alors je résume votre pop list, Irving Welsh, The Acid House, Marabou Stork Nightmares, The Wire et Frank Sinatra. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça donne ça.
I want to get in and out as quickly as possible.
Ain't blowing in.
Esbrillant toujours, c'est un mêlée. Quand les salons commencent.
These guys are good. They're deep, they're organized. They got everyone on the terraces running scared.
All summer long, we sang a song. And then we strolled that golden sand.
Voilà, la BO d'Irving Welsh.
That's an amazing remix.
Remix. Est incroyable.
C'est pas mal, hein, c'est notre réalisateur Ghislain Fontana.
Oui, merci.
Irving Welsh, on reste dans votre BO avec Iggy Pop et le morceau Lust for Life, ça c'est extrait du film Trainspotting. Lust for Life, signé Iggy Pop, un morceau de 77, c'est dans Pop 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 sur France Inter. Irving Welsh, vous publiez L'artiste au couteau, centré sur un personnage que les fans de Trainspotting connaissent bien, le terrible Begbie. Le seul personnage non-héroïnomane de votre bande de renégats et néanmoins dangereux des accès, qui n'aime rien de plus que de péter des genoux, des dents et tout ce qui se casse en général. Avant toute chose, et pour rafraîchir la mémoire de tout le monde, extrait du film de Danny Boyle, souvenez-vous, Begbie, c'est lui.
L'ennemi se défonçait pas à l'héros, il se défonçait aux gens. C'était ça son trip. C'était à ça qu'il était accro.
Bon ! On se calme ! La demoiselle a pris un box sur la tronche, personne ne sort d'ici tant qu'on sait pas qui l'enfoiré qui a fait ça !
Qui t'es, toi, trou du cul ?
Eh oui, Bigby parle couramment français, à moins que ce soit la VF du film. Il parle français parce que entre la VO et l'accent écossais, hein, coupé au couteau, jeu de mots, c'était un peu compliqué. Enfin bref, 25 ans après, il pète la forme, Bigby, et éventuellement encore des dents, non?
Yeah, I mean, I've still got a full set of teeth and two jaws, but he still speaks
French better than me. Mais cela dit, lui, il parle français mieux que moi.
Dans l'artiste au couteau, Bigby a quand même un peu vieilli. Il est sorti de prison, il a refait sa vie, il exerce désormais son art, la peinture, en Californie, avec une nouvelle femme, deux petites filles parfaites. Bref, il a changé, Bigby. Et si on se tient à ce point de départ, on se dit que vous aussi, sauf que non, évidemment. Irvin Welsh, vous n'allez quand même pas laisser sa vie devenir un long fleuve tranquille.
Yeah, I mean, the thing is, when I look.
Tous ces personnages, dès le début, je voyais un peu où ils allaient aller. Mais pas Bigby. Bigby, je ne savais pas ce qu'il allait devenir. Il pouvait peut-être être mort, il pouvait être en prison. Il pourrait revenir en tant que personnage comique qui soit tout le temps dans la violence. Et j'avais envie de le réhabiliter, lui donner une autre dynamique, une nouvelle vie quelque part. Et je me disais que les choses qui pouvaient le sauver, c'était l'art ou l'amour. Et donc je l'ai entouré, je l'ai coincé de là-dedans, entre l'art et l'amour. Je l'ai mis vraiment dans le cœur de cette famille aimante. Et je l'ai mis dans cet endroit à Santa Barbara, qui est très étrange. Et donc il a une vie géniale là-bas. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il faut quelque chose quand même qui soit un pari pour lui. Et donc je me suis dit, qui va revenir en Écosse parce que son fils y a été tué. Et puis, ses amis comptent sur lui pour qu'il prenne une revanche et pour que ça reprenne. Il est loin de sa famille, il est loin de son monde maintenant et il essaie de se trouver lui-même. Il se rend compte que dans cette communauté, une communauté liée par la violence, il se découvre finalement il a vraiment un amour pour la violence, oui. Et aujourd'hui qu'il a tous ces nouveaux talents, il est devenu plus clandestin, plus underground. Il pratique maintenant la violence d'une façon plus cachée, qui lui donne moins la chance, une possibilité de finir en prison. Et donc c'est une violence, c'est un psychopathe toujours, mais il est beaucoup plus froid qu'avant, et sans doute plus dangereux.
Pourquoi cette fois consacrer un volume entier à Bigby? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? À part le fait que, comme vous, c'est un Écossais vivant aux États-Unis, comme vous, il est rangé des voitures, comme vous, il est marié avec une Américaine. Est-ce que les comparaisons s'arrêtent là?
Ce qui est intéressant, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui a vraiment... Il a trouvé une façon de traduire sa violence, de traduire sa colère contre le monde. Et nous, en démocratie, on fait la même chose. On délègue notre pouvoir à des grands narcisses. Qui sont des psychopathes. La dynamique de toute l'industrie, toute la société industrielle, tout le patriarcat. C'est vraiment une façon, finalement, de diminuer toutes les poches de rage et de colère. Et de le déplacer, de ce personnage, de le mettre dans un autre monde, c'est essayer de... Même ailleurs, il reste le produit de la classe ouvrière, et que, malgré tous les changements qu'il a connus. Donc il est, je trouve, à un point de sa vie assez existentiel. Tout a été remplacé par les machines, maintenant. Il n'y a plus besoin de travailler, maintenant. On peut générer des profits. C'est vraiment le capitalisme. Et on souffre aussi de ça, de cette relation-là.
Dans l'artiste au couteau, vous renvoyez donc Bigby en Écosse pour une enquête, celle sur le meurtre de son enfant. Et le voilà donc confronté à son passé et donc à tout ce qu'il a tenté de gommer pour se réinventer. Famille, violence, mensonge et part sombre. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce que c'est l'enquête que Bigby mène ou le combat intérieur qu'il livre contre lui-même?
Ce
qui m'intéressait beaucoup, moi, personnellement, c'était... qu'il découvre sa vraie nature. Il s'est construit une vision de l'Écosse comme quelque chose de très simplifié, avec des gens qui sont qui peuvent le tabasser ou qui peuvent être une menace pour lui. Aujourd'hui, il est en Californie. Il vit une vie complètement différente. Mais il essaie finalement de détruire tout autour de lui, même de détruire son propre masque. La vengeance pour la mort de son fils, ça ne l'intéresse pas du tout. Il s'en fout, en fait. Il ne s'investit que dans ses deux petites filles qu'il a en Amérique, qui vont être dans un milieu social et vont grandir dans ce milieu-là, très protégé. Quelque part, il s'est retiré du monde. Et la violence qu'il a rencontrée pendant toute sa vie est quelque chose qui l'a tellement nourri. C'est un petit peu comme s'il se lançait dans un rachat de lui-même, comme un pays qui voudrait racheter son propre PIB. Et ce qu'il essaie de faire, en fin de compte, c'est de retrouver ses adversaires d'avant, pour retourner dans ce combat, et retourner dans ce qu'il sait faire, pour retourner ensuite en Amérique et s'occuper d'élever ses enfants et d'être auprès d'eux. Et ce soit sa fin de vie.
Irvin Welsh, qu'est-ce que le retour de Begbie sur ses terres natales vous permet de raconter sur l'Écosse d'aujourd'hui ?
À travers les yeux de Begbie, l'Écosse, c'est pire que même l'Écosse de Trainspotting. Et par cela, on peut dire que, je dirais qu'il y a bien sûr eu toute la gentrification, mais ce qui se passe aujourd'hui beaucoup en Écosse, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de lieu pour habiter, il y a beaucoup de centres fixes, et c'est quelque chose qui existe dans tout le monde occidental, un peu partout. Et lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que tout ce grand empire néolibéral est en train de se construire sur le Brexit, et voilà comment ça finira.
Qu'est-ce que vous éprouvez, vous, quand vous y retournez ? La même chose que Begbie ?
Non, je suis beaucoup moins critique de ça. Pour moi, c'est des vacances. Et les gens aiment bien m'y retrouver, donc j'y ai beaucoup d'amis. Et tant que j'y reste pas trop longtemps, j'y suis là, au bout de deux semaines, là, on commence à me dire, ah, mais t'es encore là, donc retourne en Amérique. Donc, il est temps pour moi de repartir à ce moment-là. Alors que quand je reviens, c'est, c'est super. Perdre que tu sois de retour.
Ce qui est bien, c'est
de pouvoir, en bougeant comme ça, en se déplaçant, on est toujours le bienvenu quand on revient. Enfin, pour un moment en tout cas.
Irvin Welsh, vous avez déclaré au quotidien Libération, causer politique par les temps qui courent, c'est comme réarranger les chaises longues sur le pont du Titanic. Ça veut dire que vous démissionnez d'une certaine veine sociale dans vos écrits ou c'est juste dans la vie ?
Non, je m'intéresse beaucoup à plein de choses dans ce moment-là. C'est un grand moment ici pour la France avec cette grande grève dans les chemins de fer. Ce qui se passe en France, quelque part, avec cette grève, c'est un modèle pour le reste du monde. C'est vraiment quelque part le dernier rempart d'un modèle qui s'écroule un peu partout et qui s'est écroulé dans le monde. Et ce modèle dominant qui ne fait que s'opposer les nations est quelque chose qui doit changer. Et l'approche protectionniste dans les arts ou pour la culture n'est pas très bonne pour moi, mais je pense que c'est quelque chose qui est positif. Ça a résisté à tout ce mouvement de pureté ethnique.
I think that Macron didn't need to do this because it wasn't in his platform, and you know, and I think he's just
Macron n'a pas eu ça parce que c'était pas dans son programme.
He's moving away from the social democratic.
Mais il est en train de se libérer du modèle des néolibéraux Et c'est un vrai désastre. Et ce serait dommage en France que l'on perde vraiment ce modèle. Parce qu'on avait un très bon système aussi en Angleterre et on l'a perdu. Toutes les rhétoriques qu'on a entendues, qu'il fallait aider le consommateur et aller plus dans le sens du consommateur, c'est quelque chose qui a finalement été un vrai vol en Grande-Bretagne. J'espère que les Français vont résister et garder la SNCF comme le meilleur système de chemin de fer du monde.
On voulait, Irvine Welsh, vous faire entendre l'analyse politique d'un ex-punk, un dénommé John Lydon, autrefois connu sous le nom de Johnny Rotten. Il était interrogé l'année dernière sur le plateau d'ITV News, notamment sur le Brexit.
And where do I stand on Brexit? Well, here it goes.
The working class has spoken. Alors voilà, la classe ouvrière a parlé. Et moi j'en fais partie et je la soutiens et voilà tout. Quand vous entendez Alistair Campbell qui explique tout ça, que pourtant ce que ça va faire... Oh, j'ai arrêté de l'écouter lui, il y a longtemps. Mais vous êtes citoyen américain maintenant, c'est Trump votre président. Ah, le Donald. Voilà un mec compliqué. Un journaliste m'a demandé un jour, est-ce qu'il n'est pas un sex-pistol entré en politique?
Comment réagissez-vous à cet avis éclairé, Irvine Welsh?
Well, I mean, it's like what's happened is that I don't think you can see Brexit or
je sais pas si on peut vraiment voir le Brexit ou Trump comme des événements qui sont arrivés comme ça, comme des épiphénomènes. C'est quelque chose qui a toute une histoire. Le Brexit et Trump. C'est l'histoire de tout un peuple dont on a enlevé vraiment toute fierté et qui a été trahi par le Parti travailliste notamment. Et ensuite les conservateurs et ensuite les républicains. Et c'est un peuple qui ne sait pas où aller. Et c'est une chance vraiment pour se réapproprier l'idée européenne, ce Brexit. C'est peut-être une chance. C'est difficile vraiment de soutenir l'Union européenne. Et dans tous ces pays, ont vécu un impérialisme, un colonialisme aussi.
It's just unfit for the purpose now. It's, you know,
et
it's
aujourd'hui,
the,
au résultat, les nouvelles technologies et la division du travail qui se brise.
And it just doesn't systemically support hierarchy, and that's why hierarchies.
Et maintenant, aujourd'hui, les hiérarchies se trouvent bousculées et ça ne supporte plus ce système.
Irvine Welsh, merci pour ces commentaires éclairants. Nous allons continuer cette conversation dans quelques instants, mais pour l'instant, une petite pause et nous mettons beaucoup nos contributions, nos invités. Est-ce que vous savez faire ça, par exemple?
Yeah.
Ah bah oui.
Avec le pouce. C'est
avec
très
le
étonnant.
Pouce. Oui, c'est la première fois que je le vois avec le pouce. De toute façon, c'est pour lancer les pop news.
Stephen Merchant, l'ex-compère d'écriture et de jeu de Ricky Gervais, s'attaque de nouveau au cinéma et cette fois à une histoire de catch et même à une dynastie de catcheurs, les Bevis, dont les deux derniers rejetons ont décidé eux aussi de se lancer sur le ring. Le film s'appelle Fighting With My Family et dans la bande-annonce, les deux catcheurs en devenir croisent The Rock et lui demandent tout naturellement quelques conseils.
What are your names again?
My name.
It doesn't matter what your names are, what you want. How about what The Rock wants? The Rock wants you to go out there, take no prisoners, have no regrets, have no fear. Lay it all out on the line. Because if you don't do that, The Rock is going to find your friend Mary Poppins. He's going to take her umbrella. Yeah, he's going to shine it up real nice. He's going to turn that sumbitch sideways and stick it straight up your candy asses. There's your advice.
J'irai pas lui chercher non plus la bagarre. Fighting with my family de Stephen Merchant avec Vince Vaughn, Nick Frost, The Rock et Lena Headey, la Cersei de Game of Thrones, ce sera en septembre sur les écrans.
Consécration et mise en abîme pour les fans de Shitty Flute que nous sommes. Il y a quelques semaines de cela, nous faisions découvrir un grand musicien, Alexandre Desplat, la chaîne YouTube qui fait des reprises à la flûte et au kazoo. Et aujourd'hui, ce sont les Bee Gees qu'ils ont décidé de saccager. Alexandre Desplat, que le concept de Shitty Flute, vous venez de l'entendre, a passablement réjoui. Quelle ne fut donc notre surprise en découvrant incidemment ce matin que le dernier artiste à avoir été Shitty Flouté n'était autre que Alexandre Desplat pour la BO de La Forme de l'eau. On espère que notre double oscarisé appréciera l'attention.
Avis aux ombrophobes, voici une série qui ne va pas vous guérir, je dirais même une série aggravante pour tous ceux qui ont peur de la pluie. Elle s'appelle The Rain, une série dans laquelle un virus brutal véhiculé par la pluie a décimé presque toute la population de Scandinavie. 6 ans plus tard, un frère et une sœur rescapés découvrent en quittant la sécurité de leur bunker qu'il ne reste plus aucun vestige de la civilisation, ambiance de fin du monde.
If it was going to go wrong somewhere, it was not supposed to be here. We were taught that we were safe, that we were the happiest people on earth. Our comfortable lives were never meant to change. So when everything fell apart, we were the least prepared.
The Rain, c'est ce vendredi sur Netflix.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine de Caunes.
Oui, c'est moi.
C'est effrayant.
Merci Charline. Irvine Welsh, ne bougez pas, nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Avant de continuer ce pop entretien, on écoute un morceau qui va vous plaire, je pense. The Clash avec White Man in Hammersmith Palais. The Clash, White Man in Hammersmith Palace, c'est un morceau de 1977. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie d'Irvin Welsh, venu nous parler de L'Artiste au couteau, son dernier roman publié au Diable Vauvert.
Par un étrange hasard de calendrier de sortie, vous voici ici, Irvin Welsh, pour parler de L'Artiste au couteau, sorti en 2016 au Royaume-Uni, qui arrive chez nous. Alors qu'outre-Manche, actuellement, vous êtes en pleine promo de Dead Man's Trousers, votre roman suivant. Est-ce que c'est pas trop difficile, ces allers-retours dans le temps?
Oui,
ça l'est, oui. Mais si vous voulez, c'est une sorte de prequel pour Dead Man's Trousers. Ce nouveau livre commence là où s'arrête celui-ci, si vous voulez. C'est un petit peu une suite naturelle, finalement.
Ces lads de Trainspotting, on les a retrouvés 10 ans plus vieux dans Porno, publié en 2009, dans Skag Boys, un prequel racontant leurs jeunes années. Dans L'Artiste au couteau, on retrouve donc Begbie, l'un d'eux. Et dans Dead Man's Trousers, comme vous venez de le dire, on les retrouvera tous aussi. Cette bande de anti-héros, elle est si difficile à quitter.
Ça a été étrange, en fait, parce que j'avais envie d'en écrire plus. Quand on a fait Porno, qui est devenu le film Trainspotting 2, je travaillais avec toute l'équipe qui avait fait donc ces films. Et on parle avec eux des personnages tout le temps. Et quelque part, ces deux livres-là peuvent peut-être grandir et peuvent continuer à quelque chose. Et en tout cas, ça m'a remis dans l'intérêt, dans la présence de ces personnages. Et peut-être que je peux mettre en place un système avec ces deux bouquins pour faire avancer les choses.
Alors si on parle de cinéma, est-ce que vous avez déjà demandé à Danny Boyle s'il était intéressé par L'Artiste au couteau? Parce qu'on sait que Robert Carlyle, lui, serait très heureux de reprendre le rôle de Begbie, ce malgré ce qui lui en a coûté pour Trainspotting 2.
J'avais
une couronne temporaire. Parce que ça prend plusieurs mois pour être remplacé, pour que ça soigne bien. Et le tournage pouvait commencer à tout moment. Alors, j'étais là à attendre avec ma dent, comme ça, depuis un an et demi. Quand je me suis dit que ce serait le bon moment pour faire arracher la dent, on a découvert que la dent voisine était malade. Alors, j'ai dit, arrachez-la, elle aussi. C'est pas tellement qu'on en a parlé beaucoup, mais je sais qu'il a envie. J'aime bien très. Je vois tout à fait que ce serait possible de faire de ce livre finalement un petit film, quelque chose de plutôt restreint. Mais ce serait bien aussi de retrouver les acteurs. Et Danny a un planning qui est très compliqué, et donc on n'a pas parlé de faire une adaptation de ce film-là. Et puis moi aussi, j'ai pas tellement envie de revenir dans ce monde-là non plus, j'ai envie d'évoluer vers autre chose. Donc, il va falloir qu'on y réfléchisse.
Et comme vous feuilletonnez leurs aventures, pourquoi pas une série télé?
C'est le cas, en fait. Andrew McDonald, qui a acheté les droits et qui a produit Trainspotting, souhaite faire Skag Boys pour la télévision. Et on se demande effectivement comment on ferait une bonne adaptation. Et j'ai l'impression que que ce serait bien de renouveler complètement l'équipe. Ce n'est pas la peine que moi je me mette dedans. Même Andrew, il faudrait qu'on se mette de côté et qu'on les laisse faire quelque chose de nouveau, quelque chose de complètement nouveau. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez ces gens qui s'appellent The New Face Theatre Group. Ils ont monté Trainspotting sur scène. Ils sont allés même à New York pour le faire. Pour l'interpréter, c'est des très jeunes et qui en font quelque chose vraiment pour la scène, quelque chose dans le moment. Et c'est un spectacle merveilleux avec une toute nouvelle génération qui ont l'énergie, pas seulement les acteurs, mais aussi les gens en coulisses partout. Ce sont des, il y a une équipe vraiment qui est complètement impliquée. Et ils font un spectacle qui est à eux, qui est le leur. Et j'aimerais bien trouver une équipe comme ça pour la télévision, qui s'approprie, une nouvelle génération qui s'approprie vraiment, alors que les vieux cons comme nous, qu'on se mette de côté. Voilà. Donc on va se mettre dans un coin et réfléchir à autre chose. Mais voilà.
Et évitez de dire ça en me regardant, s'il vous plaît, Irvin Welsh. Je ne prends rien de personnel, mais enfin bon.
Je regardais le miroir derrière vous, Antoine.
Bon, Irvin Welsh, une dernière petite pause dans cette émission, parce que c'est le moment pour moi de descendre à la cave pour chercher le dernier vinyle de l'émission. J'ai envie de vous faire découvrir une petite pépite française. Allez, j'y vais. Bah, c'est quoi ce boxon? Mais il y a un groupe d'Écossais qui a envahi ma cave. Non mais c'est dingue, je peux même pas descendre chercher un disque. Ils sont au moins 500 avec le public. Attendez, je regarde. Oh, hé, les gars! Hé, y en a qui bossent, là! Non mais je ne crois pas, c'est des Red Hot Chili Pipers! Bon, de toute façon, ils entendent pas. Bon, bah écoutez, pour une fois, on va lancer le disque de la régie. Allez, envoyez-moi la souris déglinguée, là. Je reste Stalingrad. Allez! La souris déglinguée, je reste Stalingrad, un morceau de 88 dans Pop 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 sur France Inter. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition de Pop Pop Pop. Merci, merci Irvin Welsh.
Thank you guys.
Merci beaucoup. For me. C'était super d'être là.
Merci à vous d'être passé nous voir. L'artiste au couteau, c'est édité aux éditions du Diable Vauvert. Demain, dans Pop Pop Pop, on fêtera les 15 ans des éditions Sonatine. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous, ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos beauté sur YouTube.
Ben, abonnez-vous à notre podcast, quoi.
Elle est pas majeure, elle.
Oui, mais ça faisait longtemps. Mm.